Ce matin, nous lisons dans le livre d'Ézéchiel, au tout premier chapitre, à l'ouverture du livre d'Ézéchiel, trois extraits de cette ouverture, dans le premier chapitre, dans le deuxième et dans le troisième, il y aura trois passages dans le même livre. Ézéchiel, chapitre 1, versets 1 à 21. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les exilés près du Kébar, le ciel s'ouvrit et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de l'exil du roi Joïakin. La parole du Seigneur parvint à Ézéchiel, fils de Bouzi, le prêtre, au pays des Chaldéens, près du Kébar. C'est là que la main du Seigneur fut sur lui. Je regardais. Il vint du nord un souffle de tempête, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandaient une clarté tout autour. Il y avait comme un éclat étincelant sortant du milieu d'elle, du milieu du feu. Au milieu, quelque chose qui ressemblait à quatre êtres vivants dont l'aspect semblait humain. Chacun d'eux avait quatre faces et quatre ailes. Leurs jambes étaient droites et leurs pieds étaient comme les sabots d'un taurillon. Ils étincelaient de l'éclat du bronze poli. Ils avaient des mains humaines sous les ailes et à leurs quatre côtés. Et tous les quatre avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne tournaient pas quand ils se déplaçaient. Chacun allait droit devant lui. Leurs faces ressemblaient à celles d'un homme. Tous les quatre avaient une face de lion à droite, tous les quatre une face de taureau à gauche et tous les quatre une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. Chacun avait deux ailes jointes l'une à l'autre et deux qui lui couvraient le corps. Chacun allait droit devant lui. Ils allaient où allait le souffle. Ils ne tournaient pas quand ils se déplaçaient. L'aspect de ces êtres vivants ressemblait à des braises. C'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les êtres vivants. Le feu répandait une clarté, et du feu sortaient des éclairs. Les êtres vivants couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces êtres vivants, il y avait une roue à terre, à côté des êtres vivants, devant leurs quatre faces. L'aspect de ces roues, leur structure, avait l'éclat de la chrysolite, et toutes les quatre se ressemblaient. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu l'une de l'autre roue. Elles allaient sur chacun de leurs quatre côtés quand elles se déplaçaient, elles ne viraient pas quand elles se déplaçaient. Leurs jantes, d'une dimension formidable, leurs jantes à toutes les quatre étaient remplies d'yeux tout autour. Quand les êtres vivants se déplaçaient, les roues allaient à côté d'eux. Quand les êtres vivants s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où allait le souffle, dans le sens du souffle, et les roues s'élevaient avec eux. Le souffle du vivant était dans les roues. Quand ils se déplaçaient, elles se déplaçaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car le souffle du vivant était dans les roues. Et dans le chapitre 2, les versets 1 et 2, il me dit, humain, tiens-toi sur tes jambes et je te parlerai. Dès qu'il m'eut dit cela, un souffle entra en moi et me fit tenir sur mes jambes. J'écoutais celui qui me parlait. Et dans Ézéchiel 2, à partir du verset 9, je regardais, une main était tendue vers moi, tenant un livre rouleau. Je le déployais devant moi, il était écrit en dedans et en dehors. Il y était écrit « Lamentation, plainte, gémissement ». Il me dit « Humain, mange ce que tu trouveras, mange ce rouleau, et va parler à la maison d'Israël. » J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit « Humain, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. » Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il me dit, Humain, va vers la maison d'Israël et tu leur diras mes paroles. Car ce n'est pas vers un peuple du langage impénétrable, la langue inintelligible que tu es, à la langue inintelligible que tu es envoyé, c'est vers la maison d'Israël. Ce n'est pas vers une multitude de peuples au langage impénétrable, à la langue inintelligible dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers cela, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur, ce sont des obstinés. Je rends ton visage dur face à leur visage. Je rends ton front dur face à leur front. Je rends ton front comme un diamant, plus dur que le roc. N'aie pas peur d'eux, ne sois pas terrifié par eux, car c'est une maison rebelle. Il me dit, humain, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dis. Va trouver les exilés, les gens de ton peuple, tu leur parleras, et qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne prennent pas garde, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Un souffle m'enleva, et j'entendis derrière moi un puissant grondement. Béni soit la gloire du Seigneur, du lieu où il réside. J'entendis le bruit des ailes des vivants battant l'une contre l'autre, le bruit des roues auprès d'eux et le puissant grondement. Un souffle m'enleva et m'emporta. J'allais, irrité et furieux, mais la main du Seigneur était plus forte que moi. J'arrivais à Tel Aviv, chez les exilés qui habitaient près du Kébar. Là où ils habitaient, je restais là 7 jours, atterré au milieu d'eux. Et nous chantons ensemble le psaume 24, « La terre au Seigneur appartient ». Nous prions ensemble. Seigneur, autant que j'ai pu, autant que tu m'en as donné la force, je t'ai cherché. Et j'ai voulu avoir l'intelligence de ce que je crois. Et j'ai beaucoup discuté et j'ai beaucoup peiné. Seigneur mon Dieu, mon unique espérance, exauce-moi. Ne permets pas que je me lasse de te chercher, mais mets-moi au cœur un désir plus ardent de te chercher. Me voici devant toi avec ma force et ma faiblesse. Soutiens l'une et guéris l'autre. Devant toi est ma science et mon ignorance. Là où tu m'as fermé, ouvre à celui qui frappe. Que je me souvienne de toi, que je te comprenne, que je puisse t'aimer. Amen. Nul n'est prophète en son pays, dit l'Écriture. Ézéchiel n'est plus dans son pays et l'épreuve est rude. Il devra prophétiser à ceux de son peuple, mais ailleurs. Ézéchiel, le jeune prêtre embarqué avec les élites de Jérusalem en exil à Babylone, est pris de visions. Des visions qui ont quatre faces, humaines et animales, et qui sont accompagnés de roues et couverts d'ailes. Le mouvement de ces vivants est impossible à décrire. Ils suivent quatre directions simultanément, montent et descendent, tandis que les ailes les recouvrent ou les découvrent. Cette vision est effrayante par bien des côtés. Le livre d'Ézéchiel s'ouvre sur rien moins que la gloire de Dieu. Une gloire couleur du lapis lazuli, d'un bleu qu'aucun ciel n'aura jamais. Une gloire tempêteuse, mobile, immense, brûlante, et qui rassemble des symboles essentiels dans un système de pensée de l'époque d'Ézéchiel. Ézéchiel voit des tétramorphes. On pourrait imaginer qu'il s'agit là d'une invention géniale de la Bible, mais sans doute il n'en est rien. Comme souvent dans la littérature de la période exilique, les images sont empruntées à des civilisations voisines. Mais ce n'est pas un hasard si l'auteur ou les auteurs de ce livre utilisent précisément le thème du tétramorphe. En effet, leur représentation est notée par André Leroy-Gourhan comme extrêmement ancienne. Le spécialiste de l'art pariétal nous dit qu'on le trouve déjà dans les grottes préhistoriques, des agencements d'animaux pour figurer des êtres mythiques, des femmes bisons, des hommes chevaux. Le tétramorphe est une forme archétypale, un agencement d'éléments mythiques qui donne une multiplicité de significations, mais pas de façon linéaire. On ne peut pas rendre compte de ça comme s'il y avait une logique. On peut regarder les tétramorphes de divers points de vue. La description qu'en fait Ézéchiel n'est pas linéaire. Cette description correspond étrangement davantage au système de représentation qu'utilisaient les œuvres les plus anciennes, les œuvres préhistoriques. La philosophe Muriel Van Vliet, dans sa conférence sur l'art préhistorique, explique le statut des représentations dans cet art très lointain de nous, selon André Leroy-Gourhan. Elle rend compte de toutes ses études et elle dit « L'art préhistorique articule des symboles abstraits et des figurations réalistes, transposition symbolique plutôt que calque de la réalité. Cet art cherche à reproduire spatialement des valeurs par agencement de figures. Cet agencement multiplie les dimensions, par contraste avec une écriture linéaire. Ce sont des symboles visuels instantanément accessibles. Des schèmes multidimensionnels diffus. Les images y conservent une flexibilité. Les figurations pariétales sont à envisager sur le mode d'un itinéraire organisateur. L'ensemble forme un espace itinérant qui fonctionne comme un dispositif topologique. C'est cet espace qui est passionnant dans la vision des tétramorphes. Nous sommes aujourd'hui sans doute plus hermétiques à ce type de discours symbolique, mais il est bon de ne pas rejeter toute image quand on entreprend de lire la Bible, car alors nous serions obligés de faire l'impasse sur beaucoup de textes. Nombre de textes deviendraient impossibles à comprendre si l'on allait y chercher ces symboles. Une vision comme celle d'Ézéchiel n'aurait plus valeur d'argument d'autorité aujourd'hui, sans doute, à une époque où ce type de manifestation, des visions effrayantes, serait vu plutôt comme un trouble psychique que comme une révélation. Peu de pasteurs dans notre Église, au moins, invoquent l'autorité d'une vision pour étayer leur discours théologique. Pourtant, la vision ici vaut pour thèse centrale du discours du livre d'Ézéchiel. Impossible de faire l'économie de son analyse sans risquer de passer à côté du propos central de cette ouverture prophétique qui nous est proposée. Alors regardons avec Ézéchiel ces fameux tétramorphes. Une figure d'homme et de l'autre côté une figure d'aigle, symbolisant sans doute le ciel et la terre. Ils sont tous deux doués d'une vision de face et sont placés comme des vigies pour les vivants. En effet, l'aigle a deux systèmes de rétine, les anciens le savaient peut-être déjà, qui lui permettent de regarder sur les côtés comme nombre d'oiseaux, mais aussi, et c'est là sa particularité, de face comme un humain. Saint Jérôme, le père de l'Église, interprétera bien plus tard, et dans un système de pensée chrétien, la figure d'homme comme le symbole de l'incarnation du divin, et le symbole de l'aigle comme l'ascension vers le divin. Pour le taureau, animal pesant et associé à la force depuis des temps extrêmement anciens, il représente traditionnellement les forces atmosphériques et est associé dans les panthéons archaïques au tonnerre et à la foudre. Le dieu Baal, par exemple, est représenté par un taureau. Il est aussi signe de fécondité et de virilité. Saint Jérôme, encore lui, en déduira qu'il est symbole des passions et qu'il faut dompter ses passions et qu'il est aussi symbole des fautes à expier. Cette interprétation est liée évidemment à la pratique du sacrifice, où les taureaux étaient convoqués, moyen expiatoire par excellence. Le lion, lui, est symbole de beauté et de force, mais ces forces chez lui ne sont pas brutales et pesantes comme celles du taureau. Elles sont harmonisées, canalisées, d'où la symbolique du pouvoir politique et notamment royal qui lui est associé. Par son autorité, il calme les ardeurs anarchiques pour concentrer la force dans une organisation hiérarchisée. C'est sans doute pour cela que la tribu de Juda a comme totem ce lion. Saint Jérôme l'associe à la résurrection et donc au triomphe de la vie sur la mort. Je dirais même de l'ordre sur le chaos. Ces quatre symboles donnent à ce char céleste, à ces chars célestes, une signification extraordinaire dans Ézéchiel. Dieu est puissant, il est unificateur du ciel et de la terre, il sauve les hommes de leurs passions et de leurs pulsions et règne sur eux avec autorité. Mais ces chars divins ne seraient rien sans les roues qui l'accompagnent et dont vous avez compris qu'elles sont les unes dans les autres, ce qui est impossible sur la terre. Ces roues associées aux quatre directions introduisent du mouvement dans ce système symbolique. La roue est comme le cercle, signe de perfection, et en même temps elle introduit l'imparfait car elle indique un mouvement, une avancée, un devenir. Seul son centre est stable. La roue nous parle aussi des révolutions, des recommencements, des cycles de la vie. Le mouvement des roues des tétramorphes indique une avancée vers les quatre points cardinaux en même temps. Et comme ces vivants montent, avancent, descendent et s'arrêtent, l'imaginaire du livre d'Ézéchiel semble les inscrire dans un espace sphérique. Les tétramorphes décrivent une topologie infinie, une cosmologie. Le cardinal Nicolas de Cuse écrit dans sa théologie géométrique intitulée « De la docte ignorance » Dieu est la raison unique, parfaitement simple de l'univers entier, et comme la sphère provient des circulations infinies, ainsi Dieu, comme la sphère maxima, est la mesure parfaitement simple de toute circulation. En effet, toute vivification, tout mouvement, toute intelligence viennent de lui, sont en lui, sont par lui. Auprès de lui, une révolution de la huitième sphère n'est pas plus petite qu'une révolution de la sphère infinie, parce qu'il est la fin de tous les mouvements, qu'en lui tout mouvement se repose comme en sa fin. Cette intuition du cardinal de Cuse, d'un Dieu dynamique et infini, semble être déjà dans l'intuition des auteurs du livre d'Ézéchiel. Et c'est en cela que réside l'extraordinaire richesse d'un récit de vision comme celui-ci. On cherche à dire Dieu, non pas comme un être substantiel, mais comme un réseau de relations, comme le centre et la circonférence, entre le point et l'infini, entre notre point de vue d'homme et l'infinité de points de vue possibles, les relations circulent. Les tétramorphes nous ouvrent à une topologie infinie, à une théologie dynamique dans laquelle Dieu n'est pas un être fixe, mais un jeu de relations. Par le choix de quatre points de vue, par les mouvements de roue, c'est la relation dynamique qui symbolise la puissance de Dieu. Les tétramorphes inscrivent à l'esprit du prophète une conception spatiale, mais surtout relationnelle du divin. Dieu n'est plus enfermé dans le sein des saints à Jérusalem. Il circule. Il est remarquable que le livre d'Ézéchiel s'ouvre sur une discussion sur le statut de Dieu, mais aussi sur le statut de l'Écriture, de la façon d'en rendre compte. Mais alors pourquoi décrire d'abord la vision de ces symboles multidimensionnels que sont les tétramorphes? Quelle thèse soutient cette vision? Cette dimension symbolique de la vision permet de comprendre ce qui est demandé au jeune prêtre Ézéchiel, qui est appelé à devenir maintenant prophète. Deux exigences lui sont communiquées à travers cette vision. Premièrement, il est appelé à incarner une parole, un message qui ne restera pas objectif. Ézéchiel devra annoncer à son propre peuple ce que contient un livre qu'il aura préalablement mangé et digéré. On parle de son ventre et de ses entrailles. Cette écriture va donc prendre corps en lui. Il la transmettra comme s'il donnait une partie de lui-même aux autres. La parole prophétique est donc éminemment subjective et l'écriture sujette à interprétation. Il ne s'agit pas d'une répétition, d'une retransmission, mais d'une parole incarnée. À tel point que l'oracle divin insiste sur la présence physique du prophète, quand bien même le peuple ne l'écouterait pas. Sa seule présence humaine est déjà une annonce. Deuxièmement, la dynamique de la vision ouvre la prophétie sur un espace universel. Et Ézéchiel devra annoncer à ceux de son peuple une parole qu'ils connaissent déjà, mais à laquelle ils sont rebelles, dit l'Écriture. Ils sont exilés, loin de Jérusalem. Ils ont donc eu de mauvaises années. Ils sont loin de Jérusalem, loin de l'autorité politique et religieuse de leur peuple. Et tout cela est sapé par la guerre. Ils sont contraints à vivre en territoire païen dans le monde des dieux babyloniens. Le système habituel de la prophétie est renversé. Le prophète n'est pas prophète en son pays et pourtant c'est aux exilés de son peuple qu'il doit annoncer une parole qui les a pourtant déçus. Le Dieu qui promettait la terre où coule le lait et le miel, la libération de l'esclavage, la paix, n'a pas donné ce qu'il promettait. Le peuple de Dieu est en exil et il en souffre. D'autre part, le Dieu qui réside dans le Saint des Saints à Jérusalem, lui aussi est transformé. Il devient tout à coup mobile. Par les tétramorphes, Ézéchiel comprend sans doute que Dieu est dans tout l'univers, qu'il rejoint même son peuple là où il est, à Babylone. La pensée d'un Dieu local se mue en une pensée d'un Dieu au moins itinérant, voire peut-être universel. Dans le système prophétique que le livre d'Ézéchiel nous propose, le prophète est le point et la sphère infinie et l'univers entier. Et Dieu partage l'exil avec son peuple. Ézéchiel est furieux. Il aurait été si simple de rester dans l'impossibilité religieuse de l'exil, rester sans prêcher, rester sans rien dire à ces gens rebelles. Mais il est appelé à prophétiser dans le milieu le plus difficile qui soit, le milieu des déçus de Dieu. S'il était allé présenter les miracles et la puissance de son Dieu à d'autres, étrangers, ignorants de la religion du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parlant peut-être une autre langue, il aurait pu enjoliver, trouver des excuses, expliquer que c'est par l'infidélité de son peuple que l'exil a eu lieu et que Dieu n'y est pour rien, car c'est un bon Dieu. Dieu lui-même ne se fait d'ailleurs aucune illusion sur la réceptivité de son peuple. Il dit « Tu diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils ne prennent pas garde. » Ézéchiel doit aller à Tel Aviv, une ville qui n'a rien à voir avec la Tel Aviv d'aujourd'hui, puisque c'est en Chaldée, chez les siens, chez ceux qui se sentent loin de leur Dieu, parce qu'ils l'imaginent rester à Jérusalem, les ayant laissés, exilés, loin de lui. Il doit annoncer lamentation, plainte, gémissement. Ou peut-être doit-il les avoir pris en lui, intégrer, assimiler, digérer ses plaintes, ses gémissements, pour pouvoir annoncer la parole qu'on lui propose. Et il le fait sous la contrainte. La main de Dieu est sur lui. C'est donc à lui de donner à cette parole le goût de miel qu'elle a pour lui-même quand il la mange. Et pour que cette parole soit entendue par les déçus de Dieu, il devra être convaincant. Aujourd'hui encore, ils sont nombreux, les déçus de Dieu. On les appelle parfois dans certaines églises les distancés. Parfois, ils ont quitté leur église à cause du contre-témoignage de l'église. C'est avec Dieu lui-même qu'ils sont fâchés d'autrefois, car ils estiment qu'il ne les a pas soutenus dans leur misère, qu'il n'a pas entendu leurs lamentations, plaintes et gémissements. Où était-il ce Dieu qui est amour quand l'être aimé s'en est allé, par exemple? Où était-il ce Dieu de vie quand la mort a frappé la maison? Où était-il dans la maladie, quand il faut tenir et qu'on est seul? Où était-il quand la violence des guerres et des exils frappe les humains et les broie? Comment annoncer la parole de libération que la foi souffle en nous à ceux qui se sont découragés? Comment annoncer une parole présente d'un Dieu qui semble toujours absent? De quelle façon Dieu habite l'espace entre nous et lui? C'est à mon sens ce que cette vision d'Ézéchiel tente de dire. Dieu habite cet espace en tissant une relation symbolique. Et cette relation, c'est sa parole. Le livre d'Ézéchiel nous parle d'un Dieu qui s'exile avec son peuple, qui est présent avec lui même au bout du monde, même dans l'adversité. Un Dieu opiniâtre, qui sait la rébellion, qui anime son peuple et qui pourtant ne désespère pas de reconquérir son alliance. Quelle est notre présence auprès de ceux qui désespèrent qu'il y ait un Dieu qui les aime, qui les sauve, qui les soutienne? Peut-être faut-il l'envisager à la manière des tétramorphes comme un témoignage multidimensionnel, qui n'est jamais dogmatique, qui parle à toutes les dimensions humaines, même les plus irrationnelles parfois, sans exclure ni en favoriser aucune. Peut-être faut-il se garder de toute objectivation de Dieu et de sa parole, et le penser de façon toujours dynamique, comme ce souffle dont parle l'Écriture, comme un mouvement de l'âme, plus que comme une entité mythologique installée quelque part au ciel, loin, trop loin des hommes. Peut-être enfin faut-il inlassablement annoncer la présence de Dieu, qu'ils entendent ou qu'ils ne prennent pas garde. Comme dit le texte, annoncer que Dieu n'abandonne aucun de nous et être là pour n'abandonner aucun de ceux qui le cherchent. Annoncer qu'il est toujours là, quoi qu'il puisse nous arriver, et que si le désespoir peut décourager tout homme, Dieu ne désespère jamais de l'homme. Croire que l'espace entre le transcendant et nous n'est pas vide. La présence même de prophètes de Dieu dans ce monde est un signe de fidélité de Dieu envers l'humanité qui le cherche. Car Dieu les met debout pour qu'ils mangent sa parole et l'annoncent avec foi. Cette foi est le signe que l'espace entre Dieu et l'homme, qui paraît infini, est habité par la présence de sa parole. C'est donc une vision polymorphe du langage de la foi que nous montre Ézéchiel, un langage d'adaptation à ceux qui cherchent Dieu, un langage qui parle au-delà de l'intellect et qui va rencontrer, qui renonce même à cet intellect par bien des côtés, comme le soulignait Søren Kierkegaard dans ses Miettes philosophiques, pour atteindre une alliance symbolique. Le cœur de ceux qui ont été blessés dans leur foi, venir le rencontrer, l'atteindre. Ceux qui se sentent blessés dans leur foi et qui se sentent exilés, loin de l'amour de Dieu. Amen.